France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 7 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les premiers vaccins conditionnés en France. L'usine Delpharm en Eure-et-Loire va participer à la production du vaccin Pfizer-BioNTech. Les chaînes de production démarrent aujourd'hui. Reportage au début du journal après les autres titres, Agnès.
L'interminable attente des malades en quête d'une greffe de rein. Un retour sur le fiasco de l'école à la maison hier. Le lancement d'une nouvelle grande consultation citoyenne. Elle concerne cette fois les discriminations. Et puis la lutte acharnée des vignerons périgourdins pour grappiller quelques degrés.
Et nos invités ce matin à 7h50, Léa.
Il est depuis 30 ans l'une des plus grandes stars du rap français, l'une de ses meilleures plumes aussi. Il signe un poème engagé, La fin de leur monde, un manifeste brûlant sur l'écologie, la pauvreté, le racisme, la guerre. Akhenaton sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec l'ancien Premier ministre, maire du Havre, Édouard Philippe, et le député européen Gilles Boyer. Il co-signe Impressions et lignes claires aux éditions J.C. Lattès. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Enfin, des vaccins produits sur le sol français, et même s'il ne s'agit que d'opérations de remplissage, d'emballage et d'aseptisation des flacons Pfizer, l'étape est hautement symbolique au moment où la France se lance dans une campagne de vaccination à grande échelle. Et c'est donc au sein du laboratoire Delpharm à Saint-Rémy-sur-Avre, près de Dreux, que tout commence aujourd'hui. Reportage signé Béatrice Duguay.
Les flacons, les bouchons, les capsules métalliques ont été livrés ces derniers jours dans cette usine bordée de champs et de terrains de sport. Et hier matin, le précieux mélange à base d'ARN messager est arrivé, conditionné en poche, pour être traité dans une unité montée tout exprès ces derniers mois et dans laquelle William Bigot est manutentionnaire.
C'était un gros bouleversement au niveau de l'emplacement. Une chaîne exprès, ça va vraiment envoyer. Et c'est tout automatisé, puis c'est pas fini encore.
Delpharm a acheté aussi une cinquantaine de super congélateurs et la glace carbonique qui va avec. Le groupe investit au total 18 millions d'euros dans ce site.
Après, je pense que ça va être énorme, quoi. On va bien s'amuser, ouais. On va pas voir le temps passer. Je pense qu'on va travailler le samedi, le dimanche. On est parti pour, on a signé pour et puis... Non, moi j'en suis fier.
Content aussi les habitants de cette commune de 4000 habitants dont Edwige fait partie.
Je crois que ça a créé plus d'une cinquantaine d'emplois dans la région. Et c'est vrai que du coup, ce qui est assez sympathique, c'est que la région de Saint-Rémy sera reconnue un peu partout en France grâce au vaccin.
Patrick Ray, le maire de Saint-Rémy, n'est pas loin de penser la même chose.
Dans le temps, on disait Saint-Rémy est à 80 km de Paris. Maintenant, on dit Paris est à 80 km de Saint-Rémy.
C'est l'épicentre.
Une boutade doublée d'une précision. La communauté de communes et Pôle emploi ont aidé au recrutement et à la formation express des embauchés.
Béatrice Duguay. Et en tout, 5 sites industriels devraient à terme participer à la production de vaccins pour fournir 250 millions de doses d'ici la fin de l'année, estime Bercy. En attendant, le vaccin mis au point par Sanofi, espéré pour le second semestre. Des vaccins made in France, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et en attendant les effets tangibles de la campagne de vaccination, les hôpitaux continuent de déprogrammer des opérations. Les services sont saturés. 5 626 patients actuellement en réanimation et plus de 30 000 malades du Covid hospitalisés. Une situation particulièrement difficile pour les dialysés en attente d'une greffe de rein. 600 opérations reportées entre mars et juin 2020 et le cauchemar continue pour Colette que Véronique Julia a pu joindre.
Début février, elle se réjouissait sur sa page Facebook d'avoir bientôt un rein tout neuf, celui de sa sœur jumelle, sa donneuse. 2 mois plus tard, Colette, 70 ans, ronge son frein. Le 26 mars, le chirurgien a dû lui annoncer que l'opération, prévue le 31 mars, était finalement reportée.
Le 26 mars, on était en plein début de crise et donc il savait pas du tout quand il pourrait récupérer des lits. On n'a pas de date, on est arrêté dans notre élan, on ne sait pas ce qui va se passer. Et quand ça va se passer? On est en stand-by.
Colère, découragement, fatigue. Le report de la greffe condamne Colette à subir encore des dialyses à l'hôpital 3 fois par semaine, ce qu'elle fait déjà depuis 7 ans.
La dialyse, c'est être attachée à une machine. C'est pas une vie, en fait. Moi, quand je rentre chez moi, je suis complètement out.
Manque d'anticipation des pouvoirs publics accuse l'association de patients Rénalou, qui parle clairement de perte de chance pour ces malades. Magali, Léo et sa porte-parole.
Plus longtemps les patients restent en dialyse, crise et plus ça aura une incidence négative sur la durée de vie de leur greffon. Donc oui, aujourd'hui, rester en dialyse faute de pouvoir être greffé, c'est une perte de chance.
Les dialysés qui ont par ailleurs, comme les greffés, un autre problème lié au Covid, le vaccin sur eux serait nettement moins efficace. Il se pourrait d'ailleurs qu'il faille pour eux ajouter une troisième dose de vaccin ARN. Ce schéma vaccinal est à l'étude.
Véronique Julia. Et retour à présent sur le gros bug de l'école à la maison hier. Impossible pour des dizaines de milliers d'élèves de se connecter à l'espace numérique de leur établissement. Le ministère promet des améliorations dès ce matin. Mais hier, Sonia Princé, enseignant et élève, était dégoûté.
Beaucoup de professeurs étaient en colère hier en découvrant que les serveurs ne tenaient pas face aux millions de connexions pour les cours à distance. Mais ils n'étaient pas vraiment surpris. Ils expliquent que rien n'a été fait depuis un an, depuis le premier confinement. Très peu de formations sur l'enseignement à distance et très peu d'améliorations techniques. Ce n'était pas la priorité. Leur ministre, au contraire, n'a cessé de prôner le maintien des écoles ouvertes contre vents et marées, à l'opposé de ce qui se faisait chez nos voisins européens. C'était la fierté de Jean-Michel Blanquer. Jusqu'à la semaine dernière, il jugeait que les cours virtuels ne devaient se tenir qu'en dernier ressort. Pas étonnant donc, disent les professeurs, que le ministère n'ait pas anticipé et développé les outils nécessaires. Après l'annonce de la fermeture des établissements, les enseignants se sont organisés eux-mêmes. Tout était prêt de leur côté, mais pas forcément du côté du ministère, qui a rapidement rejeté la responsabilité des bugs sur les collectivités locales en charge des ENT, les environnements numériques de travail, et expliqué que le CNED était victime d'une attaque informatique. Même ces arguments n'ont pas convaincu, signe d'une rupture de plus en plus nette entre les enseignants et leurs ministres.
Alors Sonia Princé vient de le dire, la France a fait le choix de maintenir les écoles ouvertes autant que possible, contrairement à l'Italie, où tous les élèves du primaire retrouvent aujourd'hui les bancs de l'école après des mois de fermeture. Correspondance à Rome, signé Bruce de Gazin.
Les parents, les élèves, des enseignants aussi se sont mobilisés régulièrement pour réclamer l'ouverture des écoles. Comme ici, début mars, cette mère de famille explique que c'est vraiment triste de se retrouver sur la même place 9 mois plus tard pour demander encore un plan pour l'école. À peine arrivée au pouvoir, Mario Draghi promet de rouvrir. C'est le cas, 1 mois et demi plus tard, dans de meilleures conditions, selon Antonello Gianelli, le président de l'Association des directeurs d'école.
Ce qui a changé, c'est le nombre de personnes vaccinées dans le pays, et notamment le personnel scolaire. Le nombre est désormais très élevé. Nous sommes à plus de 80%.
Antonello Gianelli, comme Mario Draghi, explique que l'école, au moins jusqu'au collège, n'est pas un foyer de contamination. Le président du conseil s'appuie notamment sur l'étude de l'épidémiologiste de Milan, Sara Gandini.
Nous avons cherché à savoir si la tendance des courbes de contamination était liée à l'ouverture ou à la fermeture des écoles. Mais nous n'avons trouvé aucun lien statistiquement significatif. Non seulement la fermeture des écoles n'aide pas à contenir la diffusion du virus, mais en plus cela provoque des dommages sociaux et psychologiques.
En Italie, désormais, les présidents de régions n'ont plus le droit de fermer eux-mêmes les écoles. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et puis la pandémie à l'étranger, c'est aussi un nouveau record du nombre de morts quotidiens au Brésil. 4195 décès enregistrés en 24 heures.
Il est 7h08, Agnès. Nouvelle grande consultation citoyenne.
Il y a eu la consultation post-gilet jaune, la consultation sur le climat et même une sur l'usage du cannabis récréatif. Demain sera officiellement lancée une grande consultation citoyenne sur les discriminations dénoncées par le chef de l'État lors de son interview sur Brut en décembre dernier.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Beaucoup plus. Et encore plus quand on est d'ailleurs souvent un garçon.
Alors cette consultation se fera via un site internet pour permettre aux Français de donner des pistes pour lutter contre toutes les discriminations à l'embauche, au logement, de genre ou face au handicap. Yael Gauze.
Cette consultation s'inscrit dans le prolongement de la première plateforme antidiscrimination lancée en février et déjà sollicitée plus de 10 000 fois, notamment via le numéro vert 3928. Côté pile, ça veut dire que l'outil fonctionne, analyse un conseiller d'Elisabeth Moreno. Côté face, que c'est un vrai problème qui touche tout le monde. La consultation va durer 2 mois. Elle a pour but de sonder les Français sur ce qu'ils pensent des dispositifs déjà existants, comment ils évaluent ceux qui sont sur la table, comme cet index qui permettrait de mesurer le respect de la diversité dans les entreprises, et enfin, contribution libre ou bonne pratique que tout citoyen voudrait partager. Consultation anonyme, plus il y aura de participants et plus le thermomètre sera précis, argumente Matignon, car à la fin, c'est Jean Castex qui reprend la main, restitution fin juin. De quoi nourrir la fin de mandat, voire le futur projet présidentiel d'Emmanuel Macron, volet égalité des chances, pour rappeler que l'Élysée marche toujours sur ses deux jambes. Les discriminations, tacle un conseiller, on les combat publiquement, au niveau national, pas dans des réunions non mixtes, référence aux polémiques qui ont récemment secoué la gauche.
C'est dans un bois au bout d'un chemin forestier de la commune de Rumel, dans les Ardennes, que les enquêteurs concentrent désormais leurs recherches pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, 18 ans après sa disparition. Des enquêteurs guidés par les dernières déclarations de l'ex-compagne du tueur en série Michel Fourniret. Richard Delgenès est l'avocat de Monique Olivier.
On continue les investigations, on essaie de retrouver lieu. Michel Fourniret est maintenant dans un état de santé qui ne lui permet plus de participer à rien. Et on se concentre sur Monique Olivier. L'idée était que la juge d'instruction la mette à l'aise par rapport à ses aveux et qu'elle dise que de toute façon, sa situation ne sera pas modifiée et si elle libère un petit peu ce qu'elle a sur la conscience. Bon, Monique Olivier est dans une situation où, à partir du moment où elle a tout révélé, on est sur ce que j'appelle être des détails d'implication. Ça va être de savoir si elle l'a vu, pas vu. À partir de maintenant, la seule énigme de l'affaire, c'est de savoir où est le corps d'Estelle Mouzin pour la famille. Donc si Monique Olivier a des éléments à donner, elle les donne. Et si elle les donne et que ça permet de découvrir où est le corps d'Estelle Mouzin, j'en serais satisfait en tant qu'avocat de la défense de Monique Olivier. Point.
Propos recueillis par Alexandre Blanc de France Bleu Champagne. Neymar Mbappé en première ligne ce soir pour le quart de finale aller du PSG face au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Enfin, il ne nous a pas échappé, Nicolas, que l'atmosphère s'est considérablement refroidie. Mmh. Je parle météo, ouais, bien sûr.
Studio, hein.
Non, de moins 3 à moins 4 degrés cette nuit dans les vignobles du Bergeracois. Alors à Pont-Port ou Montbazillac, les viticulteurs luttent pied à pied. C'est un reportage de Thibaut Delmarle.
À chaque épisode de gel au début du printemps, deux principaux phénomènes fatals peuvent se produire pour les vignes. Le premier,
la gelée, c'est-à-dire les cellules qui contiennent de l'eau qui gèle et donc qui éclate, qui entraîne la mort de ces cellules et la mort des rameaux.
Anthony Castin est vigneron et maire de Pont-Port. Pour cette nuit glaciale dans le Bergeracois, il craint également un deuxième phénomène.
Au lever du soleil, en fait, l'effet loupe du givre sur les feuilles qui va en fait brûler les rameaux.
Alors, pour protéger au mieux les vignes, les viticulteurs mettent en place plusieurs techniques. Un voisin d'Anthony Castin a quelques centaines de mètres, prépare justement la nuit.
Je m'appelle Julien Fauché, je suis jeune agriculteur. On a une vingtaine d'hectares de vignes en Montbazillac, Bergeracois. On va essayer de faire consumer les boules lentement tout au long de la nuit.
Des bottes de foin le long des vignes.
Et essayer de faire une couverture de fumée pour que la température descende le moins possible.
Cette technique permettra peut-être de sauver au moins une partie de la récolte. Sinon, les vignes sont en danger pour cette année, mais pas que.
La taille sera impactée, donc la récolte 2022 sera également impactée.
Deuxième méthode, plus onéreuse, une hélice motorisée qui tourne à une dizaine de mètres du sol pour mélanger l'air présent dans les vignes, souvent plus froid avec l'air plus chaud en hauteur. Mais cette nuit, ce dispositif est moins efficace. L'air en hauteur est glacial. Il vient d'un courant du nord en provenance du Groenland.
Thibaut Delmarle de France Bleu Périgord. Il a neigé également hier dans le nord et l'est de la France. Météo complète à 7h27 avec Marie-Pierre Planchon.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le zoom aujourd'hui sur la chasse des présumés génocidaires des Tutsis au Rwanda, réfugiés en France.